Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Julien!
Salut Gauthier!
Je suis très content de te recevoir dans cet épisode de Design Journeys parce que ça fait un moment que j'ai envie de t'avoir dans cette émission, en fait depuis le début. Donc je suis très content de pouvoir enfin te recevoir et de pouvoir discuter avec toi de ton parcours et de tout ce que tu fais aujourd'hui chez Conto. Donc je suis hyper content que tu sois là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ?
Ouais, tout d'abord, également ravi de pouvoir discuter avec toi et merci de ta patience. Je sais que tu as attendu, donc merci encore. Donc, je m'appelle Julien. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai la chance de pouvoir faire ce métier-là. Et aujourd'hui, je suis lead product designer chez Conto. Je pense que tu vas me poser plein de questions à propos de mon parcours, donc je te laisse me les poser et creuser sur les points que tu as envie de creuser.
Exactement. Du coup, tu as déjà écouté le podcast, donc tu sais quelle est ma première question. Et moi, j'aimerais bien savoir comment tu en es venu à faire du design, parce que tu as un parcours, je le dis souvent, assez original. Mais toi, pour le coup, il est encore plus original que les autres parce que tu as commencé par faire une licence et un master 1 d'histoire.
Ouais.
Et après, tu es parti dans le design. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ?
C'est une très bonne question et c'est vrai que j'ai un parcours qui ressemble pas forcément au parcours que tu peux entendre à droite à gauche et notamment dans les différents podcasts que tu as pu faire avec tes différents invités. Effectivement, donc j'ai un parcours d'historien. Je suis arrivé dans le design, c'est un peu un concours de circonstances, donc je vais essayer de te redonner un peu le parcours de manière générale et ensuite t'expliquer comment je suis arrivé au design. La plupart des gens, quand on est au lycée ou au collège, on suit une voie par intérêt. Et moi, j'ai suivi la voie de l'histoire sans trop savoir pourquoi. Donc, concrètement, tu vas voir ton conseiller d'orientation et le conseiller d'orientation te pose la question suivante. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ? Moi, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était la littérature, les chevaliers, le Moyen-Âge. Et donc, je me suis retrouvé un peu bêtement, sans réfléchir, inscrit en licence d'histoire, sans trop savoir ce que j'allais faire de ma vie. Cela étant dit, c'était quand même une super expérience et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et on pourra en parler juste après. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup formé le designer que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de parallèles, beaucoup de choses qui m'ont aidé en histoire et que j'applique aujourd'hui au quotidien. Donc j'ai fait 4 ans d'histoire, j'ai un master recherche en histoire, mais en fait tout au long de ce parcours là j'ai été toujours un peu paumé sur le projet professionnel qu'il y aurait derrière, et un peu par la force des choses un jour je suis tombé sur une formation qui s'appelait Master Web Editorial qui formait en fait au métier de chef de projet et de rédacteur web. Et en fait je me disais ok, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie ? Et je me suis dit, peut-être que ce truc-là, c'est un truc intéressant dans lequel aller qui me permettrait d'avoir un projet professionnel un peu plus défini. Donc, j'ai passé des concours. Je suis allé rencontrer les différentes personnes du master. J'ai intégré le master et un peu par la force des choses, vu que c'était un master qui formait sur les métiers du web, donc chef de projet, rédacteur, graphiste, je suis tombé un peu dans le design et de par des lectures, notamment des bouquins sur la UX, je me suis décidé, je me suis lancé dans le domaine par le biais de stages et c'est comme ça que je suis arrivé dans le design en fait. Donc un peu un concours de circonstances et je me suis laissé un peu traîner enfin entraîner plutôt.
C'est intéressant parce que justement c'est ce que je lisais dans ton parcours, c'est que pendant ce master, tu as fait aussi t'as fait des stages en, comme tu le disais, en project management, tu as fait du développement et après tu as fait de l'UX. Comment ça t'est venu cette idée de vouloir lire des livres sur l'UX, te cultiver autour de ça? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui lit vraiment beaucoup. Comment tu faisais pour justement trouver toutes ces recherches et créer en fait ton parcours? Parce que c'est vraiment ce que tu as fait en fait, tu as créé ton parcours.
Du part un peu une sorte de déformation professionnelle, donc mon parcours d'historien, j'étais beaucoup amené à lire, et donc quand j'ai intégré le master, forcément j'ai commencé à aller collecter beaucoup de données, beaucoup de ressources, et je suis vraiment tombé amoureux de la philosophie qu'il y avait derrière le design et derrière l'UX design. Donc j'en ai décidé d'en faire la spécialisation pour mon master. Donc chaque élève dans la formation choisissait une spécialisation, chef de projet, rédacteur, et moi j'ai choisi la spécialisation de UX designer. Donc j'ai écrit un mémoire, j'ai cherché de la ressource, et par le biais de ce mémoire, je suis arrivé à postuler dans certaines entreprises afin de faire un stage. Et c'est là que j'ai commencé vraiment mon apprentissage. Mon apprentissage n'a commencé qu'à partir des stages finalement.
Ok. C'est pour ça que tu as fait des stages chez Razorfish, qui est une agence, et après tu es passé chez Viadeo. Et je ne vais pas passer trop de temps sur les stages, si tu m'en veux pas, je vais vraiment passer du temps sur Viadeo, parce que je sais que c'est là où tu as appris pas mal de choses et que ça t'a beaucoup formé. Pour ceux qui ne le savent pas, Viadeo, c'est un ancien concurrent de LinkedIn français.
Ouais, c'est ça.
T'as travaillé là-bas, et une chose que... Enfin, t'as travaillé sur plein d'éléments, la recherche, la page des entreprises, la recherche des recruteurs quand tu veux recruter quelqu'un. Il me semble que tu mettais sur LinkedIn que c'est cette première expérience professionnelle qui t'a donné envie de connaître les gens et de faire preuve d'empathie.
Ouais.
Comment tu voyais le design avant cette expérience-là, et comment tu l'as vu après? Parce que Tu me parles de lecture, d'avoir appris par toi-même, mais on est d'accord que voir les gens et faire preuve d'empathie, c'est la base même du métier de product designer et du UX designer. Comment ça se fait que tu aies appris ça sur le tard et pas avant, grâce à toutes tes lectures?
Mais je l'avais appris avant de par ma formation d'historien, en fait, dans lequel tu es amené à faire de la recherche. Donc c'est la même démarche finalement. En histoire, tu réponds à une problématique donnée que tu choisis, et ensuite tu vas aller faire de la recherche, donc des entretiens soit avec des chercheurs, soit avec des historiens ou des sources. Tu vas aller faire de la recherche dans les bibliothèques, donc étudier des sources, des récits. Et donc du coup, en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, cette dimension recherche, investigation, creuser un sujet et récolter de la data. Donc je pense que d'ailleurs c'est une de mes forces principales, c'est ce que j'ai pu apprendre en histoire, c'est ça, c'est avoir une problématique donnée, choisir une stratégie pour répondre à cette problématique, et ensuite aller récolter de la data qui va me permettre d'y répondre.
Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs que tu t'es pas plutôt orienté vers un poste de UX researcher qui est en fait la base de la recherche, un peu ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu aller plus loin et mettre une corde à ton arc en plus?
C'est une très bonne question. C'est une question que je me suis jamais posée, pour être tout à fait honnête. Ce que j'aimais bien dans le poste à Viadeo, c'est qu'il y avait à la fois une dimension UX qui était très poussée et une dimension design d'interface qui permettait de rendre tangibles les concepts qu'on définissait. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas voulu perdre. Être capable d'évoluer sur les deux aspects du job, donc je récolte de la donnée, des évidences qui me permettent de définir des concepts, et ensuite je suis capable de les rendre tangibles par des maquettes, des prototypes, des choses comme ça.
Si je résume un peu ton parcours, en fait, c'est vraiment l'ensemble de tes études qui t'ont donné cette partie recherche et analyse, et c'est plus ta spécialisation après à l'école qui t'a donné ce background de création.
Ouais, c'est ça.
Ok. Pour revenir sur Viadeo, vu que toi et moi on se connaît dans la vie privée et qu'on en a déjà discuté, tu me parlais de ta chef qui t'a beaucoup aidé, qui t'a fait grandir, et c'est quelque chose qu'on aborde peu dans ce podcast, qui est le rôle des mentors. Comment cette personne t'a aidé à grandir et qu'est-ce qu'elle t'a apporté?
C'est Donc du coup, la personne dont tu parles, c'est Amélie Boucher, qui était la responsable du pôle UX, ou en tout cas du pôle design chez Viadeo. Donc c'est la personne qui m'a donné ma chance professionnelle et qui m'a formé au métier finalement. Donc c'était pas que Amélie, j'ai eu d'autres collègues qui m'ont aidé, notamment sur la partie design d'interface. Mais concrètement, c'est bien onboarder un designer, lui apprendre les méthodes au quotidien et assurer un vrai suivi. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était vraiment là pour moi et qui se souciait de ma progression au sein de l'entreprise.
Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent et qui sont designers tout seuls dans leur entreprise et qui voudraient justement avoir un peu ces bases et qui voudraient pouvoir grandir grâce à quelqu'un mais qui n'y ont pas accès? Comment tu fais quand tu es designer tout seul pour acquérir toutes ces bonnes pratiques ou...
Ouais, c'est une super question et je pense que c'est quelque chose qui est très difficile, on va pas se mentir, de trouver un bon mentor. C'est assez rare. Moi, des bons mentors, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu des mauvais managers aussi. On pourra en reparler. Cela étant dit, je pense que quand on n'a pas accès à ces mentors-là, effectivement, déjà, se constituer un socle théorique de par les lectures. Donc, on va beaucoup parler de lecture pendant ce podcast-là, mais je pense que c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. Et moi, je privilégierais plutôt les références de la grande littérature design plutôt que les articles médium. Parce que souvent, je pense que les articles médium sont un condensé de réchauffé de ce qu'on a pu lire à droite à gauche. Et surtout parce que je préfère le papier, en fait. C'est pas très objectif comme réponse, je préfère le papier pour me l'approprier, gribouiller à l'intérieur des bouquins et essayer d'extraire de la donnée et de pouvoir l'analyser.
On en revient toujours à cette partie de recherche et d'analyse. Ouais. Chouette. Tu n'avais peut-être pas fini ta réponse par rapport à tout ce qui est mentoring ou...
Alors du coup, le mentoring, donc je te disais, effectivement, le premier pas, c'est déjà de s'intéresser au domaine. Et comment on s'intéresse au domaine? En faisant de la recherche et en lisant des bouquins, des articles à droite à gauche. Ensuite, aujourd'hui, sur le marché français, dans l'écosystème français, il y a quand même pas mal de formations en product design ou en design qui permettent justement d'avoir accès à des mentors. Je ne vais pas faire de la pub. Par exemple, The Design Crew, auquel tu as pu participer. Et par exemple...
Dans lequel tu es mentor aussi.
Dans lequel je suis mentor aussi. Qui m'a donné justement cette volonté de passer de contributeur individuel à manager. La dimension de partage justement.
Je suis déçu que tu ne cites pas ce podcast aussi, dans la possibilité d'avoir des mentors.
Effectivement, c'est un très bon podcast qui peut être une grande source d'inspiration, effectivement.
Je te sens moqueur. Après Viadeo, t'es parti en agence. Pourquoi avoir fait ce choix de partir en agence après avoir travaillé dans une entreprise où tu pouvais tout faire, en fait?
Déjà, je pense que c'était pas forcément un choix qui était réfléchi. Parce que je pense que j'avais encore pas mal de petites choses à apprendre avec Amélie et les différents collègues que j'avais.
Alors pourquoi tu as décidé de partir?
Probablement pour me tester et pour me prouver que je pouvais faire autre chose, que je pouvais évoluer sans structure, sans mentor justement. Mais je te dis ça a posteriori. Sur le moment, en fait, j'ai saisi une opportunité qui s'est présentée à moi et j'ai foncé. Mais il n'y avait pas vraiment de rationnel, pour être tout à fait honnête, derrière ce choix-là. Ou en tout cas, je ne m'en souviens plus.
Non, mais c'est très bien comme réponse. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans ce cas-là, de parfois switcher comme ça. Mais alors pourquoi... tu te dis, c'est une opportunité, mais l'agence, tu avais déjà travaillé dedans. Je pense que tu connais les plus et les moins. Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion de te dire « Ok, j'y retourne ».
En fait, a posteriori, quand j'ai réfléchi, je pense que donc le rationnel que j'ai pu avoir à un moment, donc qui n'était pas conscient, c'était sortir de sa zone de confort. Mm-hmm. Parce que quand tu travailles en agence, tu es amené à travailler beaucoup de clients sur des typologies de projets qui sont différents. Et je pense que j'avais besoin de voir autre chose et de me tester. En agence, tu travailles sur des rythmes plus soutenus. Tu es amené à beaucoup plus pitcher ton travail. Et je pense que c'était quelque chose que je voulais, en fait. C'était me tester. Donc, grosso modo, si on réfléchit, je pense que Viadeo, c'est là où j'ai acquéri les fondations théoriques de l'expertise en design. Ensuite, l'expérience en agence, c'était la mise en pratique dans un autre contexte sans support et relais méthodologique. Parce que quand tu es en agence, même si tu as des managers, tu es un peu livré à toi-même sur des projets avec des clients.
Ok. Par rapport à tout ce que tu as dit, tu t'aimes passer du temps à chercher, à fouiller, à comprendre les gens. J'ai eu plusieurs personnes dans ce podcast qui m'en ont déjà parlé de l'agence et qui étaient plutôt dégoûtées à la fin ou en tout cas un peu déçues parce que les agences, ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour s'épanouir en tant que UX designer. Et je pense surtout à toute la partie, aller voir des utilisateurs, parler avec eux, essayer de comprendre. Ouais. C'est quelque chose généralement qui est difficile à pitcher à des clients. Comment toi, qui adore la recherche et qui passe du temps à faire ça, comment tu as pu, j'ai envie de dire, survivre en agence, mais comment tu as fait pour t'y épanouir pleinement?
J'ai très bien survécu et en fait, j'ai pas fait grand-chose parce que donc l'agence dont on parle, c'est Neuron. Et en fait, dans les équipes Neuron, on avait ce qu'on appelle des... j'essaie de me ressouvenir du terme, des planeurs stratégiques, et ces planeurs stratégiques étaient d'anciens sociologues, donc j'ai un très bon ami, d'ailleurs peut-être que tu pourras inviter à ce podcast.
C'est difficile à dire.
Ouais, c'est très difficile à dire. Et donc du coup, la dimension recherche était déjà présente chez Neuron, donc c'était même pas une question qui se posait. On en faisait sur tous les projets via les planeurs strat.
C'est eux qui faisaient la recherche ou tu étais avec eux?
Ça dépend des projets, mais c'était quelque chose dont ils étaient responsables, mais sur lequel on pouvait les accompagner en support. Là où il y avait vraiment une responsabilité pour le designer, c'était sur les tests utilisateurs. Donc on n'en faisait pas de façon constante sur les projets, c'était en fonction des opportunités et des projets sur lesquels on travaillait. Mais la responsabilité des designers, c'était vraiment de créer cet environnement de test pour aller tester les solutions sur lesquelles on travaillait. Donc, il y avait une méthode qui était vendue à Neuron, qui était achetée par les clients. Donc, il n'y avait pas besoin pour moi d'aller faire de l'évangélisation sur les tests utilisateurs. Donc, d'une certaine façon, très chanceux aussi là-dessus.
Oui, j'avoue, tu as eu pas mal de chance là-dessus. Alors, qu'est-ce qui fait que, après 2 ans en agence, tu as décidé de partir à nouveau?
Là, c'est encore un concours de circonstances. En fait, quand j'ai commencé ma carrière avant Viadeo, j'ai fait pas mal d'entretiens à droite à gauche. Et un de ces entretiens-là, c'était chez Adobe. Ou Adobe en français pour les gens qui ont des difficultés de prononciation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas prêt en fait en tant que jeune professionnel à rentrer dans une boîte comme Adobe. Donc on n'a pas continué les entretiens. Mais pour autant, c'est toujours resté un petit peu dans ma tête là, présent comme une boîte dans laquelle ce serait génial d'évoluer. Et quand j'étais en agence, j'ai eu la chance de me faire contacter par un recruteur sur LinkedIn, tout bêtement, comme ça peut arriver à des milliers de personnes. M'ont écrit et du coup, j'ai pas laissé l'occasion filer sous mon nez. Et en fait, j'ai accepté le poste et j'ai rejoint Adobe. Alors, je sais plus l'année exacte, mais je l'ai racheté au moment où Adobe a racheté une boîte qui s'appelle Fotolia. Et donc, du coup, j'étais le designer qui allait travailler sur le projet Fotolia et sur l'intégration du projet Fotolia dans l'écosystème Adobe. Alors quand je dis le designer, c'était le designer dans le bureau français. Évidemment, il y avait toute une équipe à San Francisco qui m'aidait à accomplir cette tâche.
Justement, j'ai plein de questions là-dessus. Alors, j'ai noté, c'était en 2015 que Adobe a racheté Fotolia,
ouais.
Qui est devenu Adobe Stock.
Yes.
Par la suite. Justement, je voulais savoir pourquoi tu étais le seul designer français, parce que de ce que tu m'as dit, c'est que tous les designers sont principalement à San Francisco.
Ouais.
Et toi, tu es le seul Français qui reste en France. Pourquoi tu ne les as pas rejoints et qu'est-ce qui faisait que toi, tu restais à Paris?
Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y avait une équipe produit à Paris. Les product managers de Fotolia étaient basés à Paris. Et donc, du coup, j'étais la personne, le référent design, qui était amené à travailler avec eux directement. Voilà. Okay, donc, c'est... en fait, c'est pour avoir un équilibre et qu'ils aient une ressource design avec laquelle travailler à Paris.
C'est intéressant qu'ils aient pas décidé de tout rapatrier à San Francisco pour que tu travailles avec, avec toutes les équipes.
Ouais, c'est des questions qui se sont posées, mais ça s'est pas fait, effectivement.
Et j'ai envie de passer un petit peu de temps sur ton expérience chez Adobe et principalement la culture américaine et la culture française autour du design. On sait que la culture product design et design aux États-Unis est beaucoup plus développée qu'en France.
Ouais.
Ou en tout cas, en France, le design est plus orienté ingénieur. Ça doit faire des choses, mais ça ne doit pas forcément être joli. Ça ne doit pas forcément être pratique. Est-ce que tu as perçu ce décalage entre la France et les États-Unis en bossant avec chez Adobe?
Ouais. C'est un truc qui se voit directement et très clairement dans les façons de procéder. Je vais te donner quelques exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est donc le département design à Adobe est en mesure de tirer ses propres initiatives.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, bah, en tant que product designer, par exemple, dans une boîte classique, le travail que tu vas faire, ça va être du travail qui est fait, ou en tout cas qui est priorisé en fonction d'une roadmap. Chez Adobe, le département design était instigateur de certaines démarches, donc ce qu'on appelait des démarches d'exploration ou du travail de vision. Donc je décide que 2-3 designers vont travailler ou vont explorer sur une opportunité donnée, par exemple aller travailler sur un nouvel outil, je dis n'importe quoi, ou travailler sur un nouveau modèle. Et donc du coup, au bout de 2 ans, une partie de mon temps, je travaillais avec les product managers sur Adobe Stock, mais de temps à autre, j'étais sollicité par mon et même manager pour travailler sur des initiatives d'exploration. Voilà.
Toujours relié à Adobe Stock ou même
Adobe c'est une bonne question. C'était à la fois sur Adobe Stock, mais également sur d'autres initiatives. Donc, je me souviens avoir travaillé sur Adobe Font, par exemple, ou sur des partenariats avec Apple, par exemple, aussi. Donc, différentes typologies de projets et en fonction des demandes et des besoins qui étaient émis par l'équipe design.
Chez Adobe Stock, t'étais le seul product designer à travailler sur le produit ou il y en avait d'autres ?
Non, on était donc le seul à Paris, effectivement, mais il y avait une équipe à San Francisco. Je me souviens plus du nombre exact, mais à peu près 7-8 personnes.
D'accord. Et comment tu faisais, toi, pour travailler avec ces gens-là ? Parce qu'en plus de la distance, tu as le décalage horaire, tu as la différence de mentalité, de façon de travailler.
Ouais.
Comment...
Bah, je veux pas te cacher que c'était un peu compliqué. Donc, du coup, j'étais assez autonome sur mes projets. Donc, j'avais des projets sur lesquels je travaillais seul et pas forcément en relation avec les autres designers. Donc, pour être très concret, moi, j'ai travaillé sur la plateforme qui s'appelle Adobe Stock Contributor, qui va permettre en fait aux créatifs de vendre leurs assets. Donc, quand je parle d'assets, c'est les vidéos, ça peut être des photos, ça peut être des assets illustratifs. Donc, je travaille sur cette expérience-là. Donc, j'avais mes propres projets, et l'équipe ASF bossait sur la plateforme Adobe Stock côté B2C et B2B.
C'est pas trop frustrant de bosser sur le projet tout seul ?
C'est devenu frustrant. Au début, c'était super intéressant parce que justement, j'ai pas bossé seul. J'ai bossé avec un designer senior là-bas. Et justement, c'est ce qui m'a aidé à vraiment progresser. En fait, quand je suis arrivé, j'ai eu un vrai choc de niveau. Donc, j'ai bossé avec ce designer-là qui s'appelle David, qui était assez senior, enfin, qui était très senior d'ailleurs, et qui allait à 1000 à l'heure. Qui faisait les choses 10 fois mieux que moi. Et donc, du coup, ça a été une source d'inspiration et c'est ce qui m'a permis de grandir. Ensuite, David est allé sur d'autres projets, donc il m'a un peu abandonné. Et donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé seul et c'était c'est assez frustrant, en fait, parce que quand tu travailles seul et que t'es pas au contact d'autres designers, bah, déjà, pour se challenger, c'est plus difficile. Donc, ce qui est intéressant en tant que designer quand tu es en solo, c'est que tu crées tes propres modèles pour te challenger toi-même. Mais bon, ça a des limites. Mais par contre, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui m'a pas mal manqué dans le parcours. C'était aussi une de mes raisons de mon départ. C'est, tu es dans une entreprise qui est géniale, qui a une maturity design incroyable. mais t'en profites pas directement en fait, parce que j'étais à Paris et finalement tout se passait à SF.
Et quand tu dis que tout se passait à SF, et je pense qu'on en reparlera un petit peu sur Conto par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de pouvoir discuter avec d'autres designers, de pouvoir se challenger, mais sur ce point-là, vous n'aviez pas, on en parle tout le temps dans cette émission, des design reviews, des réunions tous ensemble où vous pouviez discuter. Est-ce que soit, un, vous n'en aviez pas et que ça ne fait pas partie de leur process, soit ce n'est pas la même chose à distance ?
Si, on en faisait, pas régulièrement, souvent à des heures qui ne correspondaient pas à mon agenda. Donc, je faisais partie de l'équipe, mais je n'étais pas tout le temps présent aux différents rituels. Donc, c'est vraiment ça qui m'a manqué, je pense. À chaque fois que j'allais à San Francisco, et ça arrivait assez souvent, je sentais que je faisais vraiment partie de cette équipe-là et que j'avais la chance d'évoluer au sein de l'équipe. Mais en fait, à chaque fois que je revenais en France, je voyais toujours un décalage. Je fais partie de l'équipe à San Francisco et quand je suis en France, bah, je suis un peu tout seul et il faut que je me stimule, que je me responsabilise et que je sois autonome sur mes projets. Alors évidemment, il y a un suivi parce que tu travailles avec des équipes à Paris, mais c'est pas la même chose en fait.
T'as jamais voulu les rejoindre à San Francisco pour profiter de tout l'engouement et de tout ce qu'il y a
Si, c'est quelque chose qui a été mis sur la table, sur lequel on a discuté, mais qui s'est pas fait pour diverses raisons. Mais en fait, déjà d'une certaine mesure, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de chance en France, et San Francisco, c'était pas forcément une destination qui m'attirait plus que ça.
Tu penses à quoi quand tu dis qu'on a de la chance en France ?
Bon, c'est la culture, la culture, la gastronomie française. On va pas se mentir, je sais pas si c'est l'objet de ce podcast et si on a envie de parler de notre pays. Mais par exemple, ouais, pour moi, il y a eu un vrai choc culturel. Nos musées, notre gastronomie, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas là-bas et des mentalités qui sont peut-être différentes. Et quelque chose par lequel je n'ai pas été forcément séduit à San Francisco, c'est très bien parce qu'il y a une dynamique tech qui est incroyable. Le problème, c'est qu'en termes de diversité, c'est assez limité.
Ouais.
Tu peux aller dans un bar et puis parler d'un truc et te retourner et avoir un product manager ou un product designer de Facebook, Apple, Twitter. Et en fait, je trouve que c'est quand même intéressant d'être amené à rencontrer différentes personnes.
C'est intéressant. Du coup, au bout de 4 ans chez Adobe, tu décides de partir.
Ouais.
Tu pars assez rapidement chez The Design Crew et en fait, tu changes assez rapidement. Donc, tu es toujours un mentor là-bas, mais tu avais d'autres responsabilités
ouais.
que tu as arrêtées en cours de route. Et tu deviens lead product designer chez Conto.
Ouais.
À partir de il y a un an.
Il y a un an pile poil, ouais.
Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter Conto, s'il te plaît ?
Ouais, je peux faire ça. Donc Conto, c'est une entreprise qui a été fondée en 2016. Et la proposition de valeur de départ, c'était de créer un produit qui est efficace, avec une super UX, donc on y reviendra a posteriori, et un service client du tonnerre, c'est-à-dire qui est capable de répondre aux clients de Conto très rapidement. Donc c'est ça, la vitesse. Et des prix transparents, ce qui est extrêmement important. Et souvent, dans les banques traditionnelles, c'est pas tout le temps le cas. Donc, le postulat de départ, c'était ça. Donc, aujourd'hui, Conto a un peu plus évolué. Ils ont créé... Donc, quand je dis « ils », c'est parce que je suis arrivé, en fait, il y a seulement un an, donc du coup je n'ai pas participé à la création du service tel qu'il existe aujourd'hui. Donc ils ont créé une solution qui permettait de faire du everyday banking, basically. J'ai fait
t'as fait un bel anglicisme.
J'ai fait un bel anglicisme, mais j'allais switcher en anglais, donc je suis navré pour ça.
Pas de souci. Du coup, c'est quoi le everyday banking ?
C'est en fait tout le service qui va te permettre de faire les actions bancaires telles qu'on les connaît, qui sont assez classiques, comme faire un virement, pouvoir consulter tes comptes, faire des transferts, avoir des prélèvements, le cœur fonctionnel d'une banque finalement. Et aujourd'hui, on a pour ambition d'aller au-delà de ça.
C'est-à-dire ?
De créer un service qui est plus intelligent, qui va devenir une solution financière, qui va venir accompagner les entreprises.
D'accord. Tu ne m'as pas répondu juste à une question. Je sais que vous êtes en France.
Ouais.
Vous êtes dans quel autre pays aujourd'hui ?
Donc, on est dans différents pays. Donc, on est en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Tu m'as aussi posé la question sur les collaborateurs. Ouais. Pour être tout à fait honnête, je veux pas dire de bêtises, mais... Et je crois que je vais en dire une grosse et je vais peut-être me faire tirer les oreilles par le service RH de Contoo après, mais je pense que c'est environ 300, mais je suis vraiment pas sûr.
T'inquiète pas, c'est toujours la question où les gens me donnent toujours ouais. un chiffre approximatif. Mais je te pose ces questions-là pour un peu savoir, pour préparer la suite, pour quand on va commencer à parler d'évangélisation, de recherche utilisateur à l'étranger, etc. On y reviendra. Parce que j'aimerais bien comprendre ce que toi tu fais là aujourd'hui, parce que Contoo a mis, c'est une des boîtes de l'écosystème startup en ce moment qui a investi très très tôt dans le design, très très tôt dans l'expérience utilisateur. Donc toi, t'arrives, ça fait 4 ans que la boîte existe, il y a déjà plusieurs product designers qui sont là, ouais. qui travaillent sur le produit. Toi, quand t'arrives en tant que lead, c'est quoi ton but, c'est quoi tes missions, c'est quoi ton objectif?
Ouais. Donc du coup, Contoo est une entreprise qui est en train de grandir à vitesse folle. Et moi, mon rôle, en fait, ni plus ni moins, c'était de structurer l'équipe et de l'aider à grandir. Donc voilà. Évidemment, c'est quelque chose que je ne fais pas tout seul. Donc je suis arrivé, les choses ont été extrêmement bien faites. Je suis arrivé en même temps, le même jour que notre Head of Design, Mathieu. Donc il m'accompagne aussi dans la structuration et dans le développement de l'équipe, mais c'est un truc qu'on fait tous les deux, effectivement.
Quand tu dis la structuration, moi, structuration et aider au développement, tu vois, c'est des jolis termes, mais je vois pas ce qu'il y a de concret.
Concret.
Ouais, j'aimerais bien un peu de concret, savoir ce que ça implique pourtant.
Bah, si tu veux, je peux rentrer en détail. Quand je parle de structuration, quand on est arrivé avec Mathieu dans l'équipe Product Design, il y avait 3 designers. Donc, quand tu as 3 designers pour une entreprise qui va vite, la première mission du manager, c'est 1. Gérer les priorités et 2. Éteindre un peu les feux. Parce qu'on avait 3 designers, donc 1. Une personne qui venait juste d'arriver, donc en fait 2 designers complètement opérationnels et 1. En phase d'onboarding. Donc le but du jeu, c'était calmer un peu la situation pour la stabiliser et ensuite construire derrière. Concrètement, parce que tu veux du spécifique,
ben oui.
c'est 1. Aider sur les projets, donc pas en étant la personne qui va produire, mais vraiment un accompagnement méthodologique sur certains projets, donc parfois mettre la main à la pâte quand il y a certaines problématiques. Donc ça, c'était la première mission. Et ensuite, c'est apporter plus de structure via une meilleure définition des priorités. Donc c'est ce qu'on fait lors des daily, par exemple, où on définit en tant qu'équipe les objectifs qu'on a envie d'atteindre, et ensuite on s'organise en tant qu'équipe pour les atteindre.
Est-ce que toi aujourd'hui, ça te manque pas trop de plus faire de la recherche utilisateur, de pas designer au quotidien? La question sous-jacente, c'est, t'es passé de contributeur individuel à manager.
Ouais.
Comment on fait cette transition-là? Et toi, comment tu la vis? Qu'est-ce que ça te change au quotidien?
Bah, je la vis très bien. Merci de t'en inquiéter. En fait, déjà, juste pour dézoomer un petit peu, je pense que le passage de contributeur individuel à manager, ça doit être un choix très conscient. On doit savoir exactement pourquoi on fait ça. Je sais que beaucoup de personnes vont passer manager parce que c'est la seule opportunité pour grandir au sein d'une entreprise, et c'est pas forcément le bon choix. Moi, via les cours que j'ai pu donner, que ce soit à l'université ou via le design crew, la dimension de partage, d'accompagnement, la passion de faire développer, des gens, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et j'ai eu l'opportunité de le faire chez Contoo. On m'a donné cette opportunité de le faire. Et donc, je pense qu'il faut être effectivement très conscient du choix quand tu passes de contributeur individuel à manager. Je me rappelle plus de ta question parce que je suis en train un peu de divaguer.
Divaguer. Pardon. Non, c'était vraiment en fait de savoir si comment tu le vivais et quels étaient les avantages que tu avais trouvé dans ce métier, enfin dans ce rôle plutôt. Et il y a une autre question que je me posais, c'est pour toi, là tu en as un peu parlé, cette envie de partage, c'est quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour devenir manager? Parce que dans ce podcast, on parle souvent de product design, de product manager, on organise des reviews tous ensemble et tout, c'est chouette, mais on parle rarement de ce qu'il faut pour faire, pour passer à ce nouveau rôle-là. Pas forcément devenir lead et gérer toute une équipe, mais par exemple aussi ne serait-ce que de gérer une autre personne avec toi, de gérer un projet, tout ça. Donc en dehors de la curiosité et de cette envie de partager, qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour... qu'est-ce qu'il faut pour ce rôle-là ?
Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, déjà, il faut avoir quand même une certaine expérience et une certaine expertise, on ne va pas se mentir. Tu ne peux pas passer... de contributeur individuel à manager en 2 ans, même si ça se fait en fait. Ensuite, je pense qu'il faut être en mesure de faire preuve de leadership, donc c'est-à-dire comment je drive un projet, comment j'amène des gens dans mon sillage, comment je convainc les gens, est-ce que je suis capable de casser les silos, c'est-à-dire aller communiquer avec différentes équipes facilement. Et d'être en mesure de créer une dynamique. Donc ces deux qualités-là me semblent primordiales. Tout à l'heure, quand on en discutait, j'en avais mentionné une troisième que j'ai oubliée.
L'empathie.
L'empathie. C'était plutôt, je pense, donc qualité, c'est la passion pour les gens, en fait. C'est s'intéresser aux gens et avoir la volonté de transmettre son savoir. Donc c'est une question de posture, finalement, pas forcément une compétence à proprement parler. Et ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand on fait le choix de passer de contributeur individuel à manager, ça doit être un choix très conscient. Ça doit pas être l'unique façon de progresser dans sa carrière.
Oui, parce que j'imagine que j'imagine que ce que tu sous-entends là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour progresser en tant que product designer, il faut forcément devenir lead product designer à un certain moment, alors que tu pourrais très bien te spécialiser ou monter en compétence sur certains points.
Exact. Ouais, je pense qu'il faut... En fait, d'une certaine façon, il faut être patient aussi. Une carrière, ça se construit, ça prend du temps. Acquérir des connaissances, un savoir, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 an, ni en 2 ans, ni en 3 ans. Tous les jours, j'apprends des trucs. De par les personnes qui sont dans mon équipe, techniquement par exemple. Et donc du coup, je pense qu'il faut vraiment, vraiment être très patient sur la construction d'une carrière. Et quand on est prêt et qu'on a envie de passer au niveau suivant, il faut être extrêmement conscient de pourquoi on le fait. Pourquoi j'ai envie de rester dans l'expertise, donc devenir vraiment expert en product design, ou pourquoi j'ai envie de devenir manager. Et vraiment se poser la question et faire l'effort de le faire.
Pourquoi toi, tu as voulu devenir manager ?
Je crois qu'on a déjà un petit peu répondu à cette question. Je pense vraiment que l'expérience que j'ai eue auprès de Jordan à The Design Crew, la dimension mentoring, c'est quelque chose dans laquelle je me suis retrouvé. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de... ou en tout cas, j'ai eu 2 très bons mentors. Et j'avais d'une certaine façon, j'avais envie de redonner ce que j'avais pu apprendre, en fait, repartager ce que j'avais pu apprendre avec les autres.
C'est hyper intéressant. Par rapport à ce que tu disais, une des trois qualités que tu as citées, c'est l'expertise. À partir du moment où tu deviens lead, tu mets un peu moins les mains dans le logiciel, tu mets un peu moins les mains dans le concret, tu es plus là pour gérer ton équipe. Comment toi, tu fais pour rester à jour sur cette expertise-là, pour pas à un moment te faire dépasser par les gens qui t'entourent?
D'ailleurs, en fait, c'est pas grave, en fait, de se faire dépasser par les gens qui t'entourent, parce que moi, mon rôle, c'est pas d'être meilleur techniquement que les gens dans l'équipe, c'est de les accompagner au quotidien pour qu'ils soient en réussite. Comment je fais pour être en mesure de parler le même langage qu'eux? Déjà, en fait, chez Conto, c'est assez simple. C'est via les projets, mon rôle, effectivement, c'est de créer un environnement nécessaire à la progression et qui va permettre aux designers d'être en réussite. Et concrètement, être en réussite chez Conto, c'est livrer des projets dont on est fier, de qualité et à temps. Donc, moi, je suis énormément les projets. Donc, je suis encore beaucoup dans le design. Je suis amené quotidiennement à parler de design, à réfléchir au design, à me questionner sur la façon dont les choses sont faites. Donc je continue à avoir les mains dans le cambouis, même si in fine je ne suis pas la personne qui va produire. Et ensuite je pense qu'il y a aussi une question de passion et de curiosité, on ne va pas se mentir, Et j'espère que tu arrives à le percevoir. C'est quelque chose qui me passionne, le métier que je fais. Donc, je suis intéressé et je regarde à droite à gauche ce qui se passe. Il m'arrive de temps à autre de designer des trucs pour moi, pour rester un peu au goût du jour. Mais là, on parle surtout de design visuel. Mais je pense que c'est le métier de designer, c'est un métier où en fait tu vas apprendre quotidiennement au fur et à mesure des années. Et donc, c'est pour continuer à être dans le milieu, ou en tout cas dans le bon mood, il faut continuer à s'intéresser à droite à gauche à ce qui se fait. C'est quoi les bons produits qui marchent, pourquoi ils marchent bien, se questionner, se challenger au quotidien. Et d'ailleurs, en fait, chez Conto, c'est quelque chose qui est très présent, la culture du challenge, et ce qui me permet de rester à un niveau en fait correct.
Ouais, et si je comprends bien par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est qu'aussi ton but est d'avoir un socle solide et important, mais principalement pour discuter avec le même langage qu'avec ton équipe,
ouais.
Même si eux sont plus forts sur certaines compétences, que toi tu puisses en fait pouvoir tirer profit, pouvoir les guider et les amener ouais. là où tu veux, c'est ça?
Ouais, et à terme en fait ce qui serait génial, c'est que toutes les personnes dans l'équipe deviennent plus fortes que le manager, et je pense que c'est ça l'objectif dans chaque entreprise.
On en revient un peu à ce que tu disais entre savoir si tu veux devenir manager ou si tu veux ouais. te spécialiser ouais. Fortement. Continuons dans les spécialisations. On parle de toi depuis tout à l'heure. On n'a pas parlé de ton équipe.
Ouais.
Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton équipe. Qui est dedans? Quels sont les rôles qui composent ton équipe?
Ouais. Déjà, j'imagine que mon équipe va écouter. Donc, c'est une équipe que je trouve géniale. J'ai eu beaucoup de chance. Donc ça, c'est l'instant un peu promo et coup de cœur. Non, pas nécessairement. Et j'imagine que j'ai pas besoin de ça. Mais c'est important de souligner quand tu travailles avec des personnes que tu apprécies et que tu aimes accompagner, c'est important de le noter. Tu feras ce que tu veux de ce passage lors du montage.
Il restera.
Donc du coup, je te disais, ta question c'est parle-moi de ton équipe, comment elle est structurée, c'est ça?
Exactement.
Donc, quand je suis arrivé chez Conto, l'équipe était composée de 3 personnes et aujourd'hui elle est composée de 8 personnes. Donc tu vois déjà qu'il y a eu un certain développement. Qu'est-ce que tu veux savoir précisément?
Je sais que chez vous, vous avez, comme tu l'as dit tout à l'heure, un Head of Design. Toi, ouais. tu es Lead Product Designer. En ouais. dessous, dans ton équipe, je veux savoir combien vous êtes. Quels sont les rôles? Donc, tu viens déjà d'y répondre en partie, mais quels sont les rôles? Est-ce que tu ne gères que des product designers? Est-ce que tu as des user researchers, des copywriters, enfin des UX writers, UX copywriters?
Ok.
Parce que j'imagine que tu n'as pas la partie brand design
ouais.
qui est à part, mais j'aimerais okay. bien savoir, vous, comment vous êtes structuré.
Ok, qui fait quoi et qui est qui? Okay.
Exactement.
Donc, je vais repartir un peu d'en haut. Donc, aujourd'hui, on a un studio design qui est composé d'environ d'une vingtaine de personnes. Donc on est passé de 6 à 20, donc c'est quand même assez costaud en un an. Ouais. Et donc du coup, dans ce studio design, tu vas trouver différentes expertises. Comme je te disais, à la tête du studio, on a Mathieu. Et ensuite, tu as les différentes expertises qui sont les suivantes. Product design, brand design et UX copywriting. Tu vas retrouver dans l'équipe product design 8 personnes, comme je te disais. Dans l'équipe brand design, à peu près entre 8 et 10 personnes aussi, parce qu'on fait appel à des personnes qui travaillent avec nous en freelance. Et dans l'équipe copywriting, alors je ne suis pas sûr des derniers chiffres, parce que malheureusement, tu sais, la plupart du temps, je suis en remote et je n'ai pas l'occasion de rencontrer toutes les personnes. Mais je crois que nous avons à peu près 3 UX copywriters. Donc moi, je m'occupe exclusivement de la partie de la partie product design aujourd'hui.
Très bien. C'est intéressant parce que c'est plutôt siloté. En tout cas, particulièrement entre la UX copywriting et le product design, où généralement, dans la plupart des discussions que j'ai eues,
ouais.
c'est le copywriting est intégré directement à l'équipe product design. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette séparation-là?
C'est une organisation, parce qu'en fait, il n'y a pas de silo, parce qu'on est amené à travailler finalement avec l'équipe brand design et l'équipe UX copy sur tous les projets. Donc, il y a une vraie collaboration. Et, c'est juste une façon de découper et d'organiser l'équipe. Et ça, c'est pas quelque chose qui se sent et qui est retranscrit dans les projets, en fait.
D'accord. Alors, justement, tout à l'heure, tu m'as présenté un peu les locaux de Conto et votre bureau.
Ouais.
Dans ces bureaux-là, vu qu'en ce moment, on est en pleine période Covid, il n'y a pas grand monde, normalement. Vous êtes tous là. Donc, toute l'équipe que tu viens de décrire est là.
Ouais. Donc là, ce que tu as vu, c'est des bureaux. Je ne sais plus combien il y a de place, mais je crois qu'on ne rentre pas tous dedans maintenant. Mais effectivement... les moments où on a eu la chance d'être tous présents, on était dans le studio, et ça a pour vocation, j'ai du mal un peu à me projeter sur l'avenir, mais t'as pu observer qu'il y avait différentes tables, chaises à droite à gauche, et donc du coup on va aller prendre l'espace nécessaire dans le futur.
Justement, en parlant du design studio, donc du coup par rapport à ce que je constate, c'est que l'idée à terme, c'est que tout le monde soit au même endroit, que tout le monde puisse discuter. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, se challenger. C'est quoi les ambitions de ce design studio et où est-ce que vous voulez l'amener à terme?
Je pense qu'il y a beaucoup d'ambitions et j'en citerai une, ou en tout cas quelque chose qui me tient à cœur et je pense qui est retranscrit dans l'ADN de Conto, c'est l'excellence design. En fait, c'est quelque chose qu'on veut vraiment atteindre, avoir un produit extrêmement bien conçu. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille au quotidien. Donc ça, c'est l'ambition qu'on a dans le studio, c'est de sortir des projets de qualité. Et au-delà de sortir des projets qui sont livrés à temps et en heure, ce qui est extrêmement important, évidemment, c'est des projets dont on est fier. Donc on travaille au quotidien pour... se challenger et aller au-delà de ce qui est évident, au-delà de ce que les autres peuvent faire. Donc quand je dis les autres, c'est les compétiteurs. Comment on peut mieux faire, comment on peut aller plus loin.
Et comment on fait ça?
Comment on fait ça? Je pense naturellement en se challengeant énormément, en se questionnant sur la façon dont on fait les choses, pourquoi on le fait de cette façon-là. Donc tu vas me dire, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Exactement.
Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle de challenge, je pense que tu es très habitué à ça, mais donc les design reviews, les moments de challenge entre l'équipe, c'est quelque chose qu'on a beaucoup chez Conto, à tous les étages de l'organisation. Le CPO va venir challenger les designs, les projets, nous amener à nous poser d'autres questions, avoir d'autres perspectives sur les cas d'usage, les contextes et les expériences. Donc, c'est vraiment dans l'ADN de Conto, en fait, de se challenger et se questionner sur tout ce qu'on fait.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire et les design reviews et le fait de se challenger. Dans la plupart des épisodes que j'ai enregistrés, les équipes design font des design reviews entre elles. C'est les designers, parfois les brand designers, souvent les UX copywriters qui sont tous là, qui vont poser des questions, qui vont challenger, etc. Toi, tu parles du CPO, j'imagine qu'il y a aussi le head of design, bon, bref, ça va de haut en bas. Comment ça se fait que vous, par rapport aux autres, vous ayez cette volonté d'avoir tout le monde dans la boucle? Est-ce que ça pose pas trop de problèmes aussi de latence et d'inertie, tu vois, où il y a tout le monde qui doit donner son avis?
C'est pas tellement de donner son avis, c'est de s'assurer en fait qu'on est sur la bonne voie et qu'on a tous les éléments d'information nécessaires pour être en réussite. Donc on n'est pas dans un système de bureaucratie où en fait on doit avoir un tampon de chacun pour avancer. C'est vraiment dans une démarche d'auto-amélioration et de challenge constant. Et après, de façon très concrète, si on parle du process, de comment ça fonctionne au quotidien ou dans les semaines, aujourd'hui t'as différents rituels qui vont nous permettre de challenger les choses sur lesquelles on travaille. Et si tu veux, je peux me permettre de détailler.
Ouais, j'aimerais bien, s'il te plaît.
Alors du coup, par où commencer? Si on parle du process, ou en tout cas du framework de conception au sein de l'équipe design, parce qu'on va se concentrer dans un premier temps au niveau de l'équipe design, ou en tout cas de l'équipe product design, on a différents rituels qui vont amener les product designers à montrer leur travail et donc du coup à récolter du feedback. Dans notre cycle de conception, on a un moment qui s'appelle Solution Challenge, où en gros, de façon très grossière, quand le product designer a ce qu'on appelle un catalogue de solutions, donc ça veut dire différentes hypothèses de design, il va venir et pitcher son travail. Et généralement, c'est « je vois que tu veux me poser une question,
Oui, je te laisse finir pour pas te couper, parce qu'on me dit que je coupe souvent, souvent mes invités. Quand tu parles d'hypothèse de design ou d'hypothèse de solution, c'est par exemple des choses écrites ou c'est vraiment des maquettes ?
C'est des maquettes qui sont, la plupart du temps, on navigue entre du mid-fidelity et high-fidelity en fonction des profils et des appétences de chacun.
D'accord, je te remercie.
Donc grosso modo, le designer arrive avec son catalogue de solutions et généralement ce qui se passe avec le product manager, moi-même et d'autres personnes, on challenge les solutions. C'est-à-dire on essaie déjà de comprendre quel est le problème qu'on essaie de résoudre, quels sont les besoins utilisateurs et en fonction de ça, et surtout n'oublions pas les objectifs de la feature, hein, qu'est-ce qu'on veut atteindre et qu'est-ce qu'on veut délivrer en termes de valeur pour l'utilisateur, on va questionner, challenger les solutions. Donc, challenger de plusieurs façons, en fait. Déjà, un, sur le concept, pourquoi on travaille sur ce projet-là et comment il sert les objectifs de l'entreprise. Est-ce qu'on est sûr qu'on travaille sur le bon sujet? Et ensuite, peut-être plus d'un point de vue de conception sur les différentes solutions qui sont listées, permettre au designer de s'orienter et de déterminer quel est le meilleur chemin, quelle est la meilleure hypothèse qui va lui permettre de mieux répondre aux problèmes qu'il essaie de résoudre. Donc ça, c'est un élément de challenge. Ça, c'est le premier rituel. Donc ensuite, le designer repart avec son catalogue de solutions, il va travailler avec les ingénieurs, il va choisir une solution sur laquelle se diriger.
Quand tu dis travailler avec les ingénieurs, ça veut dire qu'il va voir les ingénieurs, leur proposer différentes solutions de ce catalogue-là et voir ce qui est possible de faire facilement ou pas, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. En fait, les équipes de conception, et quand je parle d'équipe de conception, c'est product manager, product designer et ingénieur, donc front-end et back-end, travaillent main dans la main sur les projets, donc ils sont amenés à se côtoyer, à se challenger. Il y a différents rituels, et je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail, mais ils sont amenés à travailler ensemble et à estimer tous ensemble quelle est la meilleure solution, pourquoi et quels sont, d'un point de vue par exemple engineering, les faisabilités, les contraintes et qu'est-ce qui nous indique quelle est la meilleure solution.
D'accord. Mais je t'ai peut-être coupé un peu trop tôt, il y a sûrement d'autres étapes.
Ouais, bien sûr.
Je veux bien que tu me les donnes avant que je te pose d'autres questions.
Les étapes en amont ou en...
Après, une fois, donc du coup, il y a eu ce catalogue d'hypothèses, tu vas voir avec les product managers, les ingénieurs, ce qu'il est possible de faire.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Qu'est-ce qui se passe ? Donc du coup, on est dans le monde où la personne a choisi une solution, c'est ça ?
A priori, oui. C'est ce
que... Ouais.
Alors attends, je vais te poser ma question tout de suite, ça sera plus simple. À quel moment interviennent les tests utilisateurs là-dedans ? Parce que j'ai l'impression que de ce que tu viens de me raconter, c'est il y a un catalogue de solutions, vous vous retrouvez, vous essayez d'aiguiller pour savoir quelle est la meilleure solution par rapport aux objectifs, etc. Ensuite, tu vas voir avec les ingénieurs et tu essayes de voir laquelle est techniquement plus facilement faisable.
Ouais.
Là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il va retravailler ou est-ce qu'à un moment, il y a quand même les utilisateurs qui interviennent ?
Les utilisateurs, ils peuvent intervenir en amont lors de la phase de recherche parce qu'il y a une phase de recherche qui est faite sur les projets. Phase de recherche qui est faite soit par le product manager, soit par le product designer. Donc la plupart du temps, ça va être des entretiens utilisateurs. Donc discuter des problèmes qu'ils rencontrent et essayer de déterminer les besoins ou en tout cas les découvrir. Ensuite, la personne travaille en collaboration avec son équipe de conception, définit un catalogue de solutions, choisit une solution et décide d'avancer. Donc dans le cycle d'itération classique, en fait, c'est j'ai fait plein d'explorations, celle-ci me semble la plus appropriée et celle qui répond le mieux au problème, je pars en design production. Et les tests utilisateurs, qui n'arrivent pas tout le temps, arrivent à ce moment-là. Donc, une fois que j'ai une solution qui est prête à être testée, qui a un niveau de fidélité quand même assez avancé pour permettre aux utilisateurs de se projeter.
Très bien. Et après... Est-ce que vous faites un suivi aussi du design qui a été implémenté ou est-ce que ça c'est plus un travail de manager, de product manager ?
Ouais, mais alors attends, du coup, en fait, donc le designer a fait son test utilisateur, il termine sa production et à ce moment-là, il y a une design review qui est faite. Aujourd'hui, cette design review, dans la plupart du temps, elle est faite par moi et le designer en question. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un modèle où la team va faire plus de design review. Donc on va constituer des groupes de review globalement, justement pour faire en sorte qu'il y ait plus de moments de partage au sein de l'équipe, plus de moments de challenge au sein de l'équipe, et du coup améliorer l'équipe et l'expertise design.
Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de tous vous retrouver dans une salle et de tous commenter le...
Non, je déteste ça.
Pourquoi ?
Je crois que c'est à cause de mes expériences. Justement, chez Adobe, par exemple, tu te retrouves autour d'une table à 10 personnes. C'est des meetings qui durent 1h30, où tu as 2 designers qui présentent quelque chose. On attend, on s'ennuie, on pose des questions. Et en fait, pour l'instant, moi, je ne suis pas sûr d'avoir assisté à des bonnes design reviews dans mes expériences précédentes. Une bonne design review, c'est une review dans laquelle le designer qui présente son travail ressort avec des insights qui sont actionnables. Et souvent, ce n'est pas tout le temps le cas. Et surtout, du point de vue des participants, c'est j'ai appris quelque chose et je ne me suis pas ennuyé. Et moi, dans mes expériences passées, alors je sais pas si c'est lié à mon profil, mais c'est quelque chose que je trouve pas forcément efficace. Donc on essaie vraiment de se questionner sur qu'est-ce que c'est une bonne design review et ce serait quoi les différentes modalités d'une bonne review. Et j'ai pas envie d'aller calquer le modèle que je pourrais aller piquer chez Adobe, Itch, Payfit et le faire fonctionner pour Conto. J'essaie vraiment de me questionner sur qu'est-ce que c'est déjà une bonne design review, le construire avec l'équipe et faire en sorte que ça marche pour nous avant d'aller copier ce qui peut exister ailleurs.
J'imagine qu'aujourd'hui, si t'es assez vague autour de ce sujet-là, c'est que t'as encore pas trouvé la bonne solution.
En fait, c'est assez drôle qu'on en parle parce que du coup, c'est un sujet que j'ai commencé à initier la semaine dernière, donc vendredi dernier. Donc oui, je suis assez vague pour plusieurs raisons, parce que c'est quelque chose que je suis censé présenter à l'équipe demain. Et donc du coup, moi, mon postulat de départ, c'était plutôt que de designer la design review la plus parfaite du monde, j'ai défini les grandes lignes qui permettent d'organiser des design reviews, donc concrètement comment ça va se passer. Et ensuite, en collaboration avec l'équipe, donc concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux équipes de m'inviter aux différentes design reviews, y assister, voir ce qui fonctionne et ensuite définir ce qu'on appelle chez Conto un standard, donc une façon de faire qui nous permettra de définir qu'est-ce que c'est une bonne design review et quel est l'outcome qu'on espère obtenir de ces reviews-là.
Donc c'est un travail vachement itératif que tu es en train de mettre en place.
Itératif et surtout, la question, c'est... comment je peux avancer sur le sujet hyper rapidement sans tomber dans les travers du manager qui passe une semaine à travailler sur un pitch de design review qu'il présente à son équipe et en fait qui fail parce que ça ne correspond pas aux besoins, aux attentes de l'équipe. Donc ouais, c'est du travail d'analyse, en fait, de recherche de comment j'implémente une bonne... design review au sein du studio Conto.
Mais encore une fois, un travail de groupe et avec tes équipes, donc qui permettent de répondre aux vrais besoins.
Mais c'est surtout déceler quand les personnes vont faire les reviews. Donc j'ai commencé à designer une sorte de cadre dans lequel évoluer, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas et être en mesure de leur apporter des éléments de réponse. Donc concrètement, je vais faire un shadow en fait et voir qu'est-ce qui se passe pour ensuite co-construire avec eux ce qu'est le standard d'une bonne design review.
Est-ce que ton objectif à terme, c'est de t'extraire des design reviews et de laisser l'équipe travailler d'elle-même pour que toi, tu travailles sur des sujets un peu plus haut niveau ?
Ouais, tout à fait. C'est exactement l'objectif, en fait. Le but du jeu, c'est pas de faire en sorte que je ne vois plus les projets. Évidemment, je serais amené à tout le temps les voir. Mais surtout, l'objectif, c'est le modèle qu'on avait avant chez Conto. Donc je suis arrivé dans une équipe où ils étaient 4, maintenant on est 8, dans 3 mois on sera 12, dans 6 mois on sera 16. En fait, ce modèle-là ne marche plus. Donc il faut se réinventer et trouver des nouvelles façons de faire. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de plus responsabiliser l'équipe, de créer aussi, et ce qui est vraiment, je pense, le plus important, une dynamique de partage, un partage de connaissances. Parce que quand tu as une équipe qui grossit, le problème, c'est que les designers qui travaillent sur certains projets ne sont pas amenés en fait à voir ce que les autres font. Donc c'est comment tu crées cette culture design, et je pense que les design reviews c'est un bon moyen en fait de savoir un ce qui se passe et deux de s'auto-améliorer collectivement. Que je puisse ensuite aussi travailler sur d'autres sujets de fond qui me permettront de faire grandir l'équipe encore plus.
Ok. Là, on a un peu touché du doigt l'organisation de ton équipe et j'aimerais bien aller un tout petit peu plus loin. Vous êtes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un design studio. Donc, vous êtes dans une pièce tous ensemble, vous travaillez tous ensemble. Il me semble par contre que vous avez une organisation par squad dans l'équipe. Enfin, ouais. dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que chaque designer est attitré à un pan spécifique de votre application, c'est ça ?
Ouais. Ouais.
J'ai envie de te poser la question de pourquoi avoir choisi ce choix ? Parce que j'ai vu de tout dans ce podcast, ouais. Par exemple, où tu partais d'un studio où tout le monde faisait de tout et ensuite ils se sont un peu spécialisés comme vous, mais non plus en étant dans la même pièce, mais en étant avec les équipes au plus proche pour pouvoir apprendre de ces équipes. Avec Luc d'Agicap, il nous expliquait exactement le contraire, où chacun était sur un pan de l'application et ils ont fini par tous se retrouver ensemble et chaque designer n'avait plus l'ownership d'une squad mais pouvait bouger de projet en projet. Pourquoi vous avez fait ce choix-là un peu entre les deux, de se dire tout le monde est au même endroit mais chacun travaille dans des équipes différentes et chacun se spécialise sur un pan spécifique?
Je vais repartir un peu de l'histoire et de comment c'était organisé. En fait, ce que tu as décrit n'est pas tout à fait vrai. Quand on est arrivé avec Mathieu, l'équipe, ou en tout cas l'équipe Product Design, donc constituée de 3 personnes, n'était certainement pas attitrée à une squad. Donc on a continué en fait à fonctionner en design studio, et au moment en fait où l'équipe est devenue plus conséquente, donc avec 8 designers, on a décidé, ou on est en train d'opérer ce changement-là, d'avoir un designer dans chaque squad. Parce que je pense que le mode design studio, qui doit très bien marcher pour Luc, il a une petite équipe encore. C'est peut-être plus difficile quand tu as une grande équipe
à gérer. En tout cas, l'objectif, c'était eux aussi veulent grandir et avoir 12-13 personnes à la fin de l'année et veulent garder cette organisation studio puisqu'ils viennent d'opérer cette organisation plutôt où chacun va de projet en projet. Mais tu penses que vous, votre organisation, elle vous permet d'être, on va dire, j'ai l'impression qu'elle est moins agile mais que du coup elle permet d'aller beaucoup plus vite parce que c'est une personne qui connaît bien ce dont, sur quoi elle travaille.
Ouais, alors vu qu'on a opéré le changement il y a 2-3 mois et que l'équipe est assez récente, il y a quand même une certaine curiosité qui amène les designers à regarder les projets qui sont à droite, à gauche. Effectivement, je pense que c'est bien pour les équipes, et quand je parle d'équipe, c'est le product manager, les équipes tech, d'avoir une personne qui est dédiée, qui est le référent en fait design auquel s'adresser. C'est effectivement en termes de productivité et aussi pour le designer de mieux maîtriser son sujet, je pense que c'est plus intéressant. Et en fait, du coup, la vraie problématique qui se pose quand tu fais ce changement de studio à une organisation par squad, en fait, où chaque designer est attitré à une squad, c'est comment tu gardes une dynamique d'équipe et comment tu favorises le partage de connaissances au sein de ton équipe. C'est ça, en fait, le vrai point dur, je pense, à tacler. Et je pense que les design reviews, c'est quelque chose qui va permettre justement de continuer à diffuser le savoir. Le fait d'avoir des rituels de partage hebdomadaire au niveau du studio permet aussi de diffuser le savoir et de permettre aux designers d'être plus rattachés à la vision de l'entreprise et aux différents projets.
Ça marche. Je vais encore quelques questions qui vont être un peu plus décousues que ça va être moins une conversation parce que c'est quelques questions qui me restent et que j'aimerais bien te poser. Ton équipe, elle va grandir ? Aujourd'hui, vous êtes 8, c'est ce que tu me disais.
Ouais.
Votre objectif, c'est d'être une vingtaine, c'est ça, à la fin de l'année ?
En tout cas, c'est de doubler l'équipe Product Design. On a un certain rythme de recrutement à respecter, effectivement.
Et c'est uniquement des Product Designers ?
Oui, alors effectivement, c'est des product designers, mais les autres équipes sont aussi en train de grandir.
Mais en fait, ma question va un tout petit peu plus loin. C'est que je trouve ça très intéressant que vous n'ayez que des product designers,
ouais,
et pas de UX researchers.
Okay.
Surtout que vous êtes dans plusieurs pays, donc j'imagine les habitudes de consommation ou d'utilisation en tout cas sont un peu, ouais, différentes, même si tout est à peu près homogénéisé, mais que certains clients en Italie sont un peu différents de ceux en Allemagne, de ceux qui sont en France. Ouais. Vous n'avez personne qui est attitré justement juste à découvrir, non, pour vous aider à pouvoir faire des projets plus facilement.
Non, on a personne, et du coup tu vas me demander pourquoi.
Bien sûr.
Parce que en fait la recherche est distribuée dans les équipes, c'est-à-dire que les PM et les product designers font la recherche, et qu'aujourd'hui on pense ou en tout cas on pense que c'est le bon modèle, et peut-être qu'un jour on recrutera des UX researchers, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire très prochainement, je pense.
Tu cherches plus des profils, on va dire bons partout, ou en tout cas qui ont assez de force et des œufs dans différents paniers.
C'est des profils qui ont du potentiel et qui peuvent grandir et qui peuvent apprendre sur différents sujets. Et on sait que le profil parfait n'existe pas. Chez Conto, on met en place une organisation qui permet aux contributeurs individuels, mais aussi aux managers, de progresser au quotidien. Et donc, du coup, on fait des vrais trainings sur ces sujets-là. Moi, par exemple, je t'expliquais que tout à l'heure, j'étais pas mal formé à la recherche, même si je ne suis pas un chercheur, un UX researcher de formation. Et je pense qu'il y a des choses que je ne fais pas très bien. Ce n'est pas grave. Cela étant dit, j'ai une expertise suffisante pour me permettre d'entraîner les équipes. Concrètement, tout à l'heure, je te parlais de la notion de standard. Donc, c'est comment on fait une certaine chose de la bonne façon chez Conto. Ça, c'est ma définition assez grossière, et je pense que les personnes de chez Conto auront une meilleure définition peut-être. Mais du coup, concrètement, dernièrement, moi j'ai travaillé sur un standard de test utilisateur qui explique un peu comment on s'y prend, quels sont les réflexes méthodologiques à avoir et comment on met ça en place. Donc moi, mon but justement, c'est de diffuser ce savoir, d'entraîner l'équipe et de faire en sorte que l'équipe grandisse sur le sujet de façon autonome et diffuse le savoir. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est, admettons que tu entraînes des designers sur la recherche utilisateur, sur le test utilisateur, ce qu'ils vont faire de façon naturelle, ils vont aller diffuser le savoir auprès des autres équipes. Et donc du coup, le product manager à terme sera également entraîné sur les tests utilisateurs.
Est-ce que là tu parles de la recherche, c'est toi qui l'amène, enfin c'est toi qui explique ces standards-là. J'imagine que dans ton équipe il y a aussi d'autres personnes qui créent des standards, qui le diffusent aux autres. C'est pas uniquement du management vers les équipes, mais aussi des équipes entre elles.
Ouais. Il y a une vraie démarche d'amélioration continue, et en fait dès qu'on voit qu'il y a une opportunité d'amélioration sur un sujet, on incite les équipes à se questionner et à créer des nouvelles façons de faire.
T'en as parlé un tout petit peu avant avec les designers qui, quand ils font de la recherche, vont voir les product managers et vont essayer de diffuser ça va. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites au niveau de toute l'entreprise pour essayer d'évangéliser autour du design? Et je sais que le design est à la base de Conto et de sa création, mais est-ce que vous continuez à essayer de les évangéliser, leur expliquer pourquoi vous faites de la recherche, comment vous travaillez, comment vous faites pour montrer que vous existez et techniquement, juste prouver que vous n'êtes pas que des gens qui dessinent et qui font de la peinture toute la journée.
Ouais, je suis navré, je ne vais pas pouvoir vraiment répondre à cette question, parce qu'en fait, ce travail d'évangélisation, on n'a vraiment pas besoin de le faire. La recherche, c'est quelque chose qui est vraiment un réflexe. Donc, c'est mettre le client au centre en fait, de la démarche, et c'est dans l'ADN de Conto, en fait. C'est ce qui fait sa réussite. Et en aucun cas, je suis obligé d'aller expliquer à un tel quels sont les intérêts de la recherche. Donc, d'une certaine façon, et je souris quand je dis ça, et ça ne va pas être visible pour les auditeurs, mais je n'ai pas à faire ce travail-là. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Conto, en fait. C'est que j'ai senti, parce que ça me fatiguait un peu de passer mon temps à évangéliser certaines choses, qu'aujourd'hui, chez Conto, ou en tout cas, dès sa création, le design était au centre des process de travail et d'une équipe qui est... une équipe primordiale au succès de l'entreprise.
Super. Donc, en fait, moi, si je résume un peu toute cette discussion, c'est que toi, en tant que manager aujourd'hui, ton but, c'est juste de faire grandir les équipes et de pas te poser sur des questions un peu où tu as besoin d'expliquer quel est ton métier, ce que tu fais, pourquoi c'est important dans la boîte. Mmh. Toi, ton but, c'est d'aller à l'étape d'après et de faire en sorte d'accélérer le plus vite possible pour pouvoir délivrer toujours plus de valeur à vos clients.
Ouais, c'est ça. Et pour rebondir, je discutais avec Mathieu, du coup, le head of design. Et la question, c'est l'équipe product design a vraiment bien grandi collectivement, individuellement. Donc, il y a une bonne dynamique d'équipe. Les personnes ont beaucoup progressé individuellement. L'étape d'après, c'est comment on fait en sorte qu'elles progressent encore plus vite sur d'autres domaines pour qu'on gagne encore plus en expertise et donc du coup en conséquence qu'on soit en mesure de travailler et de livrer des projets qui apportent encore plus de valeur. Parce qu'en fait dans l'ADN de Contour, on croit vraiment que le succès des collaborateurs va permettre le succès du produit. En fait, si tu as des designers qui sont hyper forts, bah du coup ton équipe design va être hyper forte par définition. Donc il y a un vrai support, soutien des équipes managériales pour permettre aux individus de grandir au sein de leur expertise.
Top. On en arrive déjà à la fin de cette discussion. Comme tu le sais, je t'avais demandé avant qu'on enregistre un peu les ressources que tu avais à nous recommander. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander ?
J'ai l'impression que je vais te décevoir encore. Je sais que la plupart du temps, les ressources qui sont données sont des ressources de design.
De moins en moins.
De moins en moins ? Ok, donc j'ai mal fait mes devoirs. Tu sais que j'aime bien lire.
Et je pense que tout le monde a compris ça voilà. Après cet épisode.
Donc du coup, je vais te proposer. J'y ai réfléchi un petit peu ce matin. Je vais te proposer deux ressources. Une qui s'apparente quand même à notre métier et l'autre qui est une lecture pour grandir, s'aérer les esprits. La première lecture, c'est un livre qui s'appelle « L'été où tout arriva » de Bill Bryson. Et en fait, ça décrit l'année de 1927 aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là ? Ce qui s'est passé, c'est une époque à laquelle les aviateurs essayaient de traverser l'océan Atlantique. Donc, ils décrivent tous ces défis-là. C'est la naissance ou en tout cas la croissance de l'entreprise Ford, donc tout le mouvement autour de cette entreprise et différentes choses qui décrivent le développement des États-Unis à ce moment-là. Donc hyper intéressant et on peut dresser plein de parallèles avec le secteur de la tech et ce genre de choses-là. Et l'autre livre, c'est... alors en français, c'est Une meilleure question. En anglais, c'est A More Beautiful Question. C'est un livre qui part du postulat suivant. C'est pour avoir de bonnes réponses, il faut être en mesure de poser des bonnes questions. Et donc, du coup, il y a tout un essai autour de ça et qui amène les gens à réfléchir de comment, en tant qu'interlocuteur, j'arrive à poser des meilleures questions pour avoir les réponses dont j'ai besoin. Et donc, du coup, c'est assez intéressant parce que en recherche utilisateur, poser par exemple des bonnes questions te permet de mieux découvrir les besoins de tes utilisateurs. Quand tu es un manager, poser de meilleures questions te permet également de donner des perspectives différentes à tes équipes, etc. etc.
Bah, tu ne m'as pas du tout déçu, c'est des super recommandations que tu nous donnes pour la fin de cet épisode. Julien, s'il y a des personnes qui veulent te contacter, on les renvoie vers quoi ? LinkedIn, Twitter ?
LinkedIn ?
Ouais.
C'est très bien.
Ça marche. Et ben, le lien sera dans la description avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Tout sera à nouveau dans la description. Merci beaucoup, Julien, pour le temps que tu m'as accordé.
Je t'en prie, c'était un plaisir.
Super. Et ben, à très bientôt.
À bientôt.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.